L'opération commencera dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
Zabzala.
L'émission
de Pierre de Sang.
Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici.
Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Quelle farce.
Pourquoi ne pas nous mettre chacun dans une cellule jusqu'à ce que nous ayons avoué vous en finiriez une bonne fois pour toutes ?
Musical ou thématique, rendez-vous tous les lundis à 19h
sur Radio Campus 106.6.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
C'est ça.
Nadine et Thierry Ribaud ont édité à l'Encyclopédie de Byzance Les Sanctuaires de l'Abîme. Des chroniques du désastre nucléaire en cours au Japon depuis l'accident de Fukushima. Tour à tour, ils présentent ce que certains nomment gestion post-accidentelle. Euphémisme bureaucratique d'une négation absolue de la vie. Puis il nous explique pourquoi un pays pourtant écrasé par deux bombes atomiques s'est doté de la menace nucléaire. Enfin, ils nous font part de leur réaction face aux illusions pacifistes des antinucléaires japonais.
Le 9 mars 2011, à 13h54, un séisme de magnitude 7.2 sur l'échelle de Richter, d'une durée de 30 secondes, frappe la région du Tohoku, au nord-est du Japon. Son épicentre se situe à 160 km de la ville de Sendai. Dans les heures qui suivent, trois autres secousses d'une magnitude supérieure à 6 se succèdent. Les services de surveillance sont mis en alerte et préviennent les populations côtières, plus de 450 000 habitants. L'agence de météorologie annonce une semaine de vigilance. Deux heures plus tard, le 11 mars, à 14h46, survient un séisme dévastateur de magnitude 9, dont l'épicentre se situe à 130 km à l'est de Sendai, au large des côtes du Sanriku, et à 373 km de Tokyo. Il dure 6 minutes. L'alerte au raz de marée est donnée à 14h49. Entre 26 et 40 minutes plus tard, le raz de marée déferle depuis l'océan Pacifique, avec des vagues de 3 à 40 mètres de hauteur sur les 670 km de côte qui vont d'Erimo à Oarai. Une zone de 560 km² est inondée. Des villages entiers sont rayés de la carte. Les gens qui n'ont pu rejoindre à temps le sommet des collines meurent noyés. Les 11 réacteurs des centrales nucléaires implantées sur les côtes de cette région, Fukushima Daiichi, Fukushima Daini, Onagawa et Tokai, sont arrêtés automatiquement. Le raz de marée inonde les générateurs de secours nécessaires au refroidissement des réacteurs numéro 1, 2 et 3 de Fukushima Daiichi et des réacteurs numéro 1, 2 et 4 de Fukushima Daini. 2h30 plus tard, de la vapeur radioactive s'échappe d'un des réacteurs de Fukushima Daiichi. On suppose que le tremblement de terre et le raz de marée ont endommagé les réacteurs. À 19h, le Premier ministre décrète l'état d'urgence tout en assurant qu'aucune fuite radioactive n'a été détectée. Les autorités départementales décident d'évacuer 1800 personnes résidant dans un rayon de 2 km autour de Fukushima Daiichi. 5 800 personnes sont désormais concernées. Il est conseillé aux gens qui habitent à une distance de 3 à 10 km de la centrale de ne pas quitter leur domicile jusqu'à nouvel ordre. À 5h30, le lendemain, on décide de relâcher de la vapeur radioactive afin de réduire la pression à l'intérieur du réacteur numéro 1 de Fukushima Daiichi. 10 minutes plus tard, la zone d'évacuation est portée à 10 km de Fukushima Daiichi et à 3 km de Fukushima Daini. La mairie de Namie organise le transfert des habitants par autobus vers le district de Tsushima, à l'ouest de la ville de Fukushima. Les données recueillies par le système d'information pour la prédiction des urgences environnementales, géré par le ministère de l'Éducation et des Sciences, indiquent des taux de radioactivité très élevés dans ce district, mais les municipalités n'en ont pas connaissance parce que le gouvernement n'a pas voulu semer la panique, comme le déclarera un conseiller spécial du Premier ministre. À 6 heures du matin, la radioactivité dans les salles de contrôle des réacteurs de Fukushima Daiichi est 1000 fois supérieure à la norme. À 12h30, l'Agence de sûreté nucléaire et industrielle considère que les dommages causés à la centrale sont de niveau 3, ce qui correspond à un incident sérieux. À 14h, trois équipes de deux personnes dites « équipes suicides » relâchent de nouveau la vapeur radioactive contenue dans l'enceinte de confinement du réacteur numéro 1 afin d'éviter qu'elle n'explose. Une explosion d'hydrogène n'en survient pas moins à 15h36. Des responsables de l'Agence de sûreté nucléaire et de l'exploitant des centrales nucléaires de Fukushima, la société TEPCO, sont alors en réunion dans les sous-sols du bureau du Premier ministre à Tokyo. Pour eux, une telle explosion est impossible.
Nous avons recueilli des témoignages au Japon qui ont peu circulé par ailleurs, qu'on a peu retrouvé par ailleurs et qui pourtant méritent d'être pointés. Témoignages selon lesquels, de la part de personnes vivant à 3 km de la centrale au moment des événements, et qui en fait nous ont bien expliqué qu'au moment où ils ont voulu sortir de leur maison, il y avait des blindés militaires qui les empêchaient de sortir, en fait. Et ces gens donc nous ont expliqué comment, quand ils ont voulu sortir de chez eux, ils ont été accueillis par des chars militaires qui leur ont demandé, en fait, qui leur ont rien demandé d'ailleurs. Ces gens sont allés voir les pilotes des chars en leur disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on leur a répondu « Ne sortez pas, ne fuyez pas. » Ces gens croyaient qu'en fait, les militaires venaient leur apporter de la nourriture. Et à boire. Et personne ne sortait des véhicules militaires pour le faire. C'est pour ça qu'ils sont allés à leur devant. Et pendant ce temps-là, ça c'est aussi les témoignages des mêmes personnes que nous avons recueillies. Pendant ce temps-là, les employés de TEPCO fuyaient. Que faire d'autre? Parce qu'ils avaient reçu la consigne de partir à plus de 100 km. Que faire d'autre? Parce qu'ils avaient reçu la consigne de partir à plus de 100 km. Que faire d'autre? Que faire d'autre? Ne sortez pas, ne fuyez pas. Parce qu'ils avaient reçu la consigne de partir à plus de 100 km. Ne sortez pas, ne fuyez pas. Ne sortez pas, ne fuyez pas.
Les informations qui circulent sur la manière dont TEPCO recrute et utilise sa main-d'œuvre sont consternantes. Ceux qu'on appelle les gitans du nucléaire, parce qu'ils passent d'une centrale à l'autre en fonction des besoins, sont recrutés parmi les agriculteurs, les pêcheurs et les travailleurs journaliers, mais aussi parmi les mendiants, les petits délinquants et les immigrés d'origine coréenne, bangladaise, iranienne, pakistanaise ou philippine, qui font l'objet d'une xénophobie exacerbée. Selon Yuko Fujita, professeur de physique à l'université Keio, sur les 352 000 travailleurs temporaires embauchés entre 1977 et 2000, environ 1000 sans-abri seraient morts et des milliers d'autres souffriraient de cancer. Les Yakuza, groupes criminels structurés en clans qui constituent ce qu'on a coutume d'appeler la mafia japonaise, sont chargés par les grandes entreprises de rechercher, sélectionner et fournir la main-d'œuvre qui sera affectée aux tâches les plus dangereuses, nettoyage des réacteurs et des piscines, décontamination en cas de fuite, réparations diverses, auxquelles le personnel régulier ne veut pas se risquer. Selon le journaliste Kenji Higuchi, qui mène des enquêtes sur ce sujet depuis plusieurs décennies, un tiers du salaire moyen correspond à une journée de travail qu'il estime à 30 000 yens, c'est-à-dire à peu près 270 euros, va dans la poche de l'intermédiaire. Le témoignage plus précis d'un gestionnaire des radiations, Shinya Kusuka, chargé du contrôle de l'exposition à la radioactivité dans une centrale, révèle que pour une prestation journalière facturée de 50 000 à 60 000 yens, c'est-à-dire de 450 à 540 euros, une fois les sous-traitants servis, le travailleur ne touche effectivement que de 7 000 à 11 000 yens, c'est-à-dire de 60 à 100 euros. Cet employé confirme l'existence de deux canaux d'embauche. L'un passe par une sorte de confrérie dans laquelle on ne peut pas entrer sans relation. L'autre, si l'on n'est pas introduit, permet de se faire recruter par un des sous-traitants spécialisés. Pour ce qui est du recrutement de sans-abri, il déclare « Il y a aussi du business de ce côté-là. Dans ce secteur, on entend beaucoup de rumeurs au sujet de l'implication des Yakuza. Je ne peux pas dire qu'elles sont fausses. Dans notre centrale, il y a beaucoup de travailleurs journaliers et certains arborent des tatouages qui montrent leur affiliation à un gang. Qui sait d'où ils viennent? C'est un mystère. » Près de 90% des 80 000 travailleurs du nucléaire actuellement actifs au Japon sont embauchés par des sous-traitants avec un statut d'intérimaire. Le secteur a besoin de 5 000 nouveaux travailleurs temporaires par an, dont au moins la moitié sont des sans-abri. Théoriquement, leur emploi est renouvelé jusqu'à ce qu'ils aient reçu la dose maximale annuelle de radiation autorisée. Mais en réalité, ils reviennent se faire embaucher sous une fausse identité auprès d'employeurs peu regardants ou bien se font établir plusieurs carnets de santé sous différents noms. Selon le responsable chargé du contrôle sanitaire des employés de Fukushima Daiichi, la réembauche est d'autant plus aisée qu'aucun contrat écrit n'est établi pour la plupart des travailleurs temporaires. Il a lui-même été embauché à la centrale après le 11 mars sur la seule base d'un accord oral sans avoir eu à produire de pièces d'identité. Une autre personne qui défend les droits des travailleurs journaliers nous a indiqué sous couvert de l'anonymat que les employés qui signent un contrat doivent s'engager à ne pas porter plainte en cas d'accident. Depuis que les centrales ont démarré en 1966, 20 requêtes seulement ont été déposées au titre des accidents du travail. La moitié d'entre elles sont restées sans suite. Pour mener une action en justice, il faut être muni d'un certificat faisant état des heures de service, mais l'employeur peut refuser de le fournir. Et si le travailleur insiste pour l'obtenir, un arrangement financier lui est proposé, pouvant aller de 6 à 30 millions de yens, c'est-à-dire de 54 000 à 270 000 euros. Les grandes fédérations syndicales restent silencieuses. L'État utilise les Yakuza pour alimenter en main-d'œuvre issue des bas-fonds de la société ses projets de développement et d'aménagement du territoire. Quant aux médias, parrainés par des conglomérats industriels et financiers tels que Mitsui, Mitsubishi ou Sumitomo, qui sont au cœur de l'industrie nucléaire, ils s'abstiennent d'enquêter sur ces pratiques.
Anders disait, définissait ainsi le national-socialisme. National-socialisme, c'est le premier mouvement politique qui nie l'homme en tant qu'homme, afin de l'anéantir réellement comme simple nature, comme matière première ou comme résidu. C'est un annihilisme, pour reprendre les mots de Anders, c'est-à-dire qu'en fait, le national-socialisme joint une philosophie du néant et l'anéantissement de l'humain. Je pense que pour cinq raisons que je vais développer très rapidement, on peut considérer que la situation de Fukushima nous plonge dans, nous donne une illustration parfaite de ce qu'est le national nucléarisme. Il s'agit en fait d'une idéologie dont se sont dotés les défenseurs en profondeur du nucléaire, et idéologie à laquelle ces défenseurs contraignent les populations à se soumettre. Cette idéologie, elle vise essentiellement à annihiler la vie au nom de l'intérêt national et à déposséder de la vie au nom des intérêts privés. Et cette idéologie repose sur plusieurs grands principes. Le premier grand principe, c'est que tous les risques sont acceptables quand on fait en sorte de ne pas laisser à ceux qui les prennent la possibilité de les refuser. Le second grand principe, la seconde pierre angulaire du national nucléarisme, c'est ce qu'on peut appeler le radionégationnisme. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le principe selon lequel, faute de connaissances considérées comme suffisantes, permettant d'établir une relation entre l'irradiation et les cancers, on conclut que cette relation n'existe pas. Ce qui pose le problème, de la fabrication de l'ignorance. C'est-à-dire que, selon ce principe, on nie les avancées scientifiques ayant établi l'existence de relations entre l'irradiation et le cancer, et on crée du doute là où, en réalité, on a des certitudes sur ce type de relation. Donc, finalement, cela revient à soutenir la négation des effets réels des radiations sur les formes de vie. Le troisième grand principe du national nucléarisme, c'est que la technologie nucléaire est une force sociale bien plus puissante que l'aspiration à la liberté des populations. Ainsi, selon ce principe, l'autoritarisme permet de gérer le nucléaire et ses catastrophes, et nous devrions nous y soumettre au nom de notre sécurité. La soumission à l'ordre nucléaire n'est pas discutable. L'autoritarisme nucléaire est aussi lié au caractère incestueux, bien sûr, des relations entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Le quatrième principe, c'est que le national-nucléarisme travaille à ce que moi j'appelle la grande inversion. La grande inversion, c'est une allusion bien sûr à Karl Polanyi, avec son idée de grande transformation. Grande inversion qui consiste à considérer que le désastre nucléaire n'est plus la cause des problèmes, mais qu'il en est en fait le remède. Cette catastrophe supplémentaire, qui n'est certainement pas la dernière, nous situe dans un contexte où nous montre combien nous avons besoin de la catastrophe et du désastre nucléaire pour pouvoir continuer à faire fonctionner le système. Ainsi, illustration, encore une fois, tout à fait véridique, de cette grande inversion qui consiste à considérer le désastre nucléaire non plus comme la cause des problèmes, mais comme le remède, c'est cette déclaration faite par un psychiatre mobilisé sur le terrain auprès des populations que l'on incite à décontaminer, qui défend l'idée selon laquelle, pour calmer la peur, il est important d'être exposé aux radiations. Et là aussi, donc, avec l'idée que plus les gens participeront aux travaux de décontamination, plus finalement ils vont s'accommoder avec cette peur totalement ridicule qu'ils ont du nucléaire. Cinquième principe du national-nucléarisme, c'est la décrédibilisation et la délégitimisation de la science. Je m'explique. À Fukushima, nous sommes face à un processus de décrédibilisation et délégitimisation de la science qui appelle les populations à prendre part à ce que certains appellent une culture pratique radiologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun doit devenir, selon les termes des gens qui prônent cette philosophie, chacun doit devenir acteur de sa propre protection dans un contexte contaminé. Donc ça veut dire, en transcription, ça veut dire « aide-toi, le ciel t'aidera », hein, finalement. Alors là, encore une fois, c'est tout à fait c'est l'ambition affichée tout à fait officiellement par un programme qui s'appelle Ethos Fukushima, qui est un programme qui était né en fait à l'époque de Tchernobyl, un programme dont les Français peuvent se vanter d'être en grande partie à l'origine, un programme financé par la Commission européenne qui consiste donc à venir sur le terrain, encourager les populations à s'adapter et à vivre avec le pire, vivre avec leur destruction programmée en fait. La liturgie de ce type de programme repose sur plusieurs idées, notamment, je cite, « L'essentiel, c'est d'optimiser les doses », nous dit Jacques Lochard, qui est un des grands prêtres d'Ethos. Sont aussi évoqués dans cette philosophie un point de vue citoyen pour prévoir la gestion d'une situation qui ne peut en aucun cas qu'engendrer d'énormes problèmes humains et environnementaux, ou la montée en compétences citoyennes, je cite toujours, dans le contexte des activités nucléaires, ou encore l'idée d'une concertation pluraliste dans la gestion à long terme d'un accident nucléaire. C'est d'ailleurs, au passage, je le note, on pointe ici toute la limite d'un certain nombre d'actions dites citoyennes dans le contexte actuel de Fukushima. Actions citoyennes qui, en fait, finalement, en voulant accommoder les gens qui sont dans la catastrophe, en voulant aider de manière tout à fait légitime et humaniste, les gens dans la catastrophe, les amène finalement à s'accommoder de la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est ce qui m'a amené à m'étonner lors d'un des multiples colloques auxquels j'ai participé à Fukushima, de découvrir une mère qui s'inquiétait du sort de son bébé dans le berceau qui était placé sous la fenêtre de la chambre. Et une association tout à fait pragmatique, avec son sens pragmatique et humaniste, lui conseillait d'abord d'éloigner le berceau de la fenêtre, et puis de mettre en place des rideaux de plomb, de manière à ce que la radioactivité soit freinée. Et heureusement, ces rideaux de plomb, bien sûr, étaient agrémentés d'une doublure en tissu fleuri, qui permettait de faire passer la pilule, si je puis dire. Le tout permettant, mesure à l'appui, je cite, limiter les radiations provenant de la forêt contaminée. Vous voyez, là on rejoint mon idée d'inversion, c'est-à-dire qu'en fait c'est la nature qui devient l'agression, hein, et on oublie qu'en fait l'agression a une autre origine que celle de la nature, au passage, et en fait on lutte contre cette agression en se mettant à survivre dans des conditions proprement inhumaines. Le national-nucléarisme, sixième élément, c'est un mouvement idéologique, j'y viens, qui nie l'homme en tant qu'homme. Je rapporte les propos du même Jacques Lochard, dont je parlais tout à l'heure, donc cet expert de Ethos Fukushima, hein, qui est un consultant français qui se fait payer grassement par la Commission européenne et par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour apprendre aux gens à vivre dans leur désespoir. Il dit, ce monsieur... Le message, il parle là de Tchernobyl. Le message que j'ai perçu de l'expérience du Bélarus est quelque chose comme « la vie est plus forte que la mort ». Ceux qui sont passés par une telle expérience ont quelque chose de plus en eux. Ils sont plus forts. Voilà ce que nous dit ce consultant en métaphysique nucléaire post-accidentelle chargé d'animer le programme Ethos auprès des gens de Fukushima. Autrement dit, le national-nucléarisme tente de nous faire accepter que l'on puisse créer la vie à partir de la mort, sans doute dans un élan de détournement de la vision nietzschéenne de l'éternel retour. En tout cas, il y a de quoi s'interroger. Ce populisme nucléaire et le radionégationnisme qui le sous-tend, c'est-à-dire in fine, donc la négation des effets réels des radiations sur les formes de vie, constitue un des fondements du national-nucléarisme que j'essaie d'évoquer ici.
Thank you.
maintenant, il n'y a que deux réacteurs qui fonctionnent, mais il y a un problème. C'est que, d'une part, le gouvernement actuel a été élu sur la base d'une promesse, la promesse de retrouver la croissance. Or, en fait, ce gouvernement n'envisage pas d'autres solutions pour retrouver la croissance que de redémarrer le nucléaire. Je pense qu'en fait, ils ont tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne retrouveront la croissance qu'en démarrant le nucléaire. Puisque la croissance, ça consiste à quoi? C'est comptabiliser des points de PIB. Hein. Et les points de PIB, c'est quoi? C'est faire marcher un maximum la machine. Or, en fait, la machine est arrêtée actuellement, la machine nucléaire. Et le problème, c'est que la machine nucléaire coûte très cher. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait l'objet, le parc nucléaire, comme ailleurs, hein, mais au Japon aussi, il fait l'objet d'investissements gigantesques. Or, ces investissements sont sur des durées qui sont très longues. Le problème actuellement du redémarrage ou pas redémarrage, on a focalisé la question sur oui, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir des pannes, etc. Ça, c'est de la farce. En fait, on voit très bien qu'il n'y a pas beaucoup de pannes, finalement, et qu'il n'y a pas de pénurie pour l'appareil industriel. Le problème, c'est surtout que si on arrête les centrales, définitivement, au Japon, actuellement, ça veut dire qu'en fait, on fait s'écrouler, dans les 2 ans qui suivent, les 3 plus grandes banques institutions financières japonaises. Et si ces 3 plus grandes banques institutions financières japonaises qui ont prêté massivement à l'industrie nucléaire s'écroulent, les Américains derrière vont subir un choc majeur. Voilà, je pense que les choses sont assez simples. Je pense que les Japonais devront redémarrer le nucléaire, pour cette raison-là, s'ils veulent de la croissance. Le nucléaire est une drogue énorme pour les systèmes économiques développés, quoi, en fait. Et c'est cette drogue, d'ailleurs, qu'on essaie d'insuffler dans les autres systèmes économiques en plein développement, comme ceux d'Asie du Sud-Est. Et quand ces pays-là vont se doter solidement de nucléaire, je crois que ça va être assez compliqué de remettre en cause le développement du nucléaire.
L'empire du mensonge radieux. On n'oublie jamais de le seriner quand il est question de l'Iran ou de la Corée du Nord. Le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont les deux faces d'une même réalité. Les États-Unis ont utilisé le Japon pour perfectionner leur technologie, mais le Japon a, en contrepartie, utilisé les États-Unis afin de pouvoir être, au moment voulu, militairement autonome en disposant de son propre armement nucléaire. En tout cas, la politique nucléaire japonaise a longtemps été arrimée à la politique des États-Unis et tout particulièrement à l'anticommunisme de la guerre froide. Le nucléaire civil japonais est une émanation du nucléaire militaire américain, ce qui permet de comprendre comment l'un des pays les plus exposés aux menaces sismiques a pu devenir la troisième nation nucléaire du monde. Le développement du nucléaire civil au Japon s'inscrit, de fait, dans le prolongement direct de la doctrine soutenue par le président Eisenhower dans son discours « Atomes pour la paix » prononcé le 8 décembre 1953 devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Je cite « Les États-Unis s'engagent devant vous et donc devant le monde à vouer intégralement leur cœur et leur esprit à faire en sorte que l'homme ne consacre pas sa merveilleuse inventivité à la mort mais à la vie. » L'objectif de mon pays est d'aider à sortir de la chambre noire des horreurs pour aller vers la lumière, pour trouver le moyen de faire évoluer les esprits, les espoirs et les âmes des hommes, d'où qu'ils soient, vers la paix, le bonheur et le bien-être. Il s'agissait donc de déposer les secrets de l'atome dans les mains de ceux qui sauront comment le dépouiller de son enveloppe militaire pour le soumettre aux arts de la paix, et de transformer les plus grandes forces de destruction en une formidable bénédiction pour le bien-être de l'humanité tout entière. Les États-Unis savent que la puissance de paix de l'énergie atomique n'est pas un rêve du futur, son potentiel est déjà disponible aujourd'hui. Fin de citation. En 1954, le gouvernement japonais lance son premier programme de recherche nucléaire. La loi cadre sur l'énergie atomique est votée en décembre 1955. Dans un souci de conformité avec l'article 9 de la Constitution japonaise de 1946, qui renonce à la guerre en tant que droit souverain de la nation et interdit tout arsenal militaire, cette loi, qui vise à utiliser l'énergie atomique pour le bien-être de l'humanité et l'élévation du niveau de vie, stipule dans son article 1 alinéa 2 que, ouvrez les guillemets, la recherche, le développement et l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être restreints à des objectifs pacifiques. Que le programme nucléaire japonais doit rechercher la sûreté et doit être mis en œuvre de manière indépendante sous administration démocratique. Et que, enfin, les résultats et les informations obtenues doivent être rendus publics afin de contribuer activement à la coopération internationale. Fermez les guillemets. Les États-Unis comme le Japon trouveront à la personne de Matsutaro Shoriki un remarquable collaborateur. Ce personnage, candidat à la mairie de Tokyo dans les années 30, ancien préfet de police, directeur du quotidien Yomiuri, fondateur de l'équipe de baseball Yomiuri Giants et futur président du réseau de télévision Nippon Television, avait été incarcéré en 1945 comme criminel de guerre de rang A dans la prison de Sugamo, puis libéré sans jugement 2 ans plus tard. Il est alors placé en liberté surveillée, ce qui lui interdit notamment de participer à la vie politique et de travailler dans les médias. Mais ces restrictions sont levées lorsque la péninsule coréenne devient le terrain d'affrontements entre les États-Unis et l'armée rouge chinoise. L'anticommunisme américain trouve dans l'accession de Mao Tse-tung au pouvoir en 1949, puis dans le début de la guerre de Corée, un stimulant fort efficace qui ne manque pas d'activer Karl Mundt, sénateur du Dakota du Sud, membre influent du comité parlementaire sur les activités anti-américaines de Joseph McCarthy et fondateur de cet instrument de propagande ouverte qui est la radio La Voix de l'Amérique. Mundt cherche à partir de 1950 à développer des réseaux de télévision en Turquie, aux Philippines, en Indonésie et au Japon où il se rapproche de Matsutaro Shoriki. La purge rouge qui sévit au Japon à la fin des années 40 lui permet d'avoir les coups des franches. Shoriki est totalement blanchi en 1951, il ne sera pas le seul, et on lui accorde la licence d'opérateur de télévision qui lui permet de fonder le réseau NTV. Outre Shoriki et son secrétaire particulier Hidetoshi Shibata, on compte parmi les promoteurs de NTV William Castle, ancien ambassadeur des États-Unis au Japon et consultant pour la CIA, Eugène Doman, ancien membre de la CIA, engagé dans la guerre psychologique, James Kaufman, avocat chez RCA et général électrique, professeur de droit occidental à l'Université de Tokyo et consultant pour la CIA, James Murphy, ancien membre de l'agence de renseignement OSS. Shoriki est élu député en février 1955, ministre de l'énergie atomique dans le gouvernement Hatoyama en décembre 1955. Il devient le premier président de la Commission nationale de l'énergie atomique instituée par la loi cadre déjà mentionnée. Il est nommé en 1956 directeur de l'Agence pour la science et la technologie et se fait l'ardent promoteur de l'énergie nucléaire au Japon en collaboration avec d'autres politiciens, dont Yasuhiro Nakasone, à l'époque président du comité de l'énergie nucléaire à la Chambre basse, qui deviendra en 1959 ministre de la science dans le gouvernement de Nobusuke Kishi, lui aussi ancien criminel de guerre de rang A, puis premier ministre en 1982. À la même époque, l'ambassade américaine, l'USIS et la CIA entreprennent une vaste campagne de promotion de l'énergie nucléaire au Japon. Shoriki en est l'un des piliers. En janvier 1955, le député américain Sidney Yates propose de construire la première centrale nucléaire japonaise à Hiroshima. Shoriki co-organise alors au Japon une exposition sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Le Yomiuri Shimbun, quotidien à grand tirage qu'il dirige lui-même et qui avait publié en 1954 une série d'articles visant à populariser la technologie nucléaire, intitulé « On a enfin pu saisir le soleil », parraine l'exposition qui célèbre l'introduction de l'atome au Japon. Tadou Iwata, pour sa part, ne se considère pas vraiment comme un activiste. Son action s'inscrirait plutôt dans la tradition japonaise des Ikki, qui se situe à l'extrême opposé de celle qui a donné naissance aux Yakuza. Au XIVe siècle, contrairement aux Bushidan, les clans de guerriers issus de la noblesse, ces communautés ne reposaient pas sur un système hiérarchisé, régi par les liens de parenté et dominé par la figure patriarcale du chef de clan. On y adhérait de manière volontaire. L'Ikki était doté de règles internes auxquelles ses adhérents juraient fidélité, stipulant que l'égalité y était entière entre des membres libres n'appartenant à personne. Les membres de l'Ikki se connaissaient bien et avaient l'habitude de combattre ensemble, se portaient mutuellement secours et agissaient en commun. Ils s'engageaient à élever les enfants de leurs camarades morts ou blessés. Le mot Ikki désignait le groupe ainsi constitué, mais également la fronde, à l'origine paysanne, dans laquelle un tel groupe s'engageait. En fait, Wataru Iwata est un peu sur les mêmes positions que Hajime Matsumoto. Né en 1974, Matsumoto a créé un réseau d'une quinzaine de petits magasins de recyclage de vêtements, d'appareils électroménagers et de meubles dans le quartier de Koenji, à Tokyo. Il est le fondateur de l'association de protection contre la pauvreté des étudiants de l'université Hosei et du syndicat national des étudiants pauvres. Il revendique la stratégie de la révolution graduelle. Il dit « Notre lutte consiste à fabriquer notre propre espace autonome. L'Ikki, c'est quelque chose comme ça, ce sont des actions persistantes menées sur le long terme. Ce que nous voulons, c'est bâtir notre propre monde avec nos propres règles, une société autonome, et ensuite voir jusqu'où nous pouvons l'étendre et l'approfondir. C'est là le sens de ce que nous cherchons. » Une semaine avant le séisme, l'anthropologue Masanori Oda ne disait pas autre chose. Il disait « Les Japonais n'ont pas besoin d'une révolution comme en Libye. Les politiciens japonais jouent déjà les uns contre les autres. Il est inutile de les combattre. Il nous faut trouver notre propre manière d'avoir notre propre voix et ainsi le paysage de la société changera. » Lui aussi se référait à l'Ikki. Il disait « Contrairement à la révolution, l'Ikki ne s'inscrit pas dans une grande histoire, mais dans une petite narration, une petite histoire. L'Égypte ou la France, ce sont de grandes histoires. Au Japon, nous n'avons jamais eu de révolution. La révolution nous est dictée ou montrée par les Occidentaux. À la place de ce type de révolution, nous sommes en mesure de créer 100 ou 1000 Ikki. Cette stratégie de la mort par 1000 en taille fait le pari que de multiples micro-transformations individuelles pourraient introduire des éléments d'irréversibilité susceptibles de modifier le système social existant. Depuis la catastrophe toutefois, Hajime Matsumoto est plus pessimiste. Il voit le Japon comme un pays terrible, une société sombre, où personne, que ce soit parmi les officiels, les gens ordinaires ou les participants au mouvement, ne donne l'impression de vouloir changer la société. Le conformisme règne, c'est pourquoi la situation, même après la catastrophe, ne pourra guère être modifiée, dit-il. La question des conditions de travail des ouvriers du nucléaire suscite des discussions. Le démantèlement immédiat réclamé par les antinucléaires de Tokyo exige une abondante main-d'œuvre et revient, dans le système actuel dominé par un marché du travail aux mains des Yakuza, à faire peser encore plus lourdement le poids de la contamination sur les catégories les plus déshéritées de la population. Si vraiment les gens de la métropole veulent faire preuve de solidarité envers ceux de Fukushima, ils doivent partager la souffrance des colonisés. Ce sont les mots de Takeru Kobashi, cofondateur d'un syndicat de travailleurs précaires, qui s'est fait embaucher dans une des centrales de Fukushima après le 11 mars. Ce même homme ajoute « Peut-être faudrait-il mettre en place un service obligatoire du nucléaire afin d'éviter que ce soit toujours les mêmes qui fassent la sale besogne, c'est-à-dire les plus pauvres de tous. » Un des organisateurs des défilés antinucléaires à Tokyo, Keisuke Narita, se dit pour sa part fatigué des manifestations. Depuis la catastrophe de Fukushima, nous en avons fait 5. Les deux premières étaient parfaites parce que la police ne pouvait pas nous contrôler. La dernière grande manifestation, qui a rassemblé plus de 60 000 personnes le 19 septembre, était manipulée par les syndicats qui avaient affrété des cars. On y voyait des écrivains, des musiciens, des acteurs connus. Pour les médias, elle a été un grand succès qui pourrait faire croire que le mouvement anti-nucléaire est devenu très important, mais on ne peut pas effacer les radiations en défilant dans les rues. Contre la société nucléaire, il faut une approche de type guérilla par petits groupes en même temps que des actions comme celle de Wataru Iwata. L'action directe viendra à son heure, mais je ne sais ni quand ni sous quelle forme. Ces Japonais-là qui nous disait ces mots. Ces Japonais-là ne font plus confiance à l'État, avec ses compromissions mafieuses, son incompétence notoire, ses malversations chroniques, ses tricheries, sa bureaucratie. Ils jouent un rôle essentiel dans la construction pratique d'une solidarité qu'ils considèrent comme un combat, mais la plupart d'entre eux œuvraient déjà dans l'ombre avant le désastre, agissant depuis des années sur la société japonaise. Ils s'attaquent autant aux valeurs culturelles, culte du mariage, de la famille et du groupe, de la pureté, de la perfection, de la modération et de la discrétion, de la modestie, de l'humanité et du conformisme, qu'ils s'attaquent à l'obsession de la réussite et de l'argent, à la surconsommation, au nationalisme et au racisme, à la surveillance généralisée et au respect de la hiérarchie et de l'autorité. Encore fallait-il voir cela au lieu de se contenter des clichés dont se satisfait encore en 2007 le correspondant du Monde, évoquant ce surgissement comme une, je cite, « révolte molle de jeunes paumés ». Avant de se raviser et d'en venir lui aussi finalement à exalter aujourd'hui, à la lumière de la catastrophe, l'activisme citoyen qui pallie l'enlisement politique et la reconquête de la démocratie confisquée par les lobbies.
Imaginer qu'une catastrophe comme celle-ci peut réveiller des forces allant à l'encontre des tenants du développement du nucléaire. En fait, il y a effectivement eu, comme vous le savez, des mouvements que l'on n'avait pas vus depuis très longtemps au Japon, dans leur ampleur, après la catastrophe, dès avril 2011, à partir d'avril, etc. Il y a eu plusieurs grandes manifestations. Toutefois, en nombre, ces manifestations sont restées finalement relativement modestes, même si elles sont pour le Japon assez importantes, puisqu'on est, elles ont atteint 200 000 personnes. Mais ce ne sont pas les manifestations qui peuvent changer la situation. Le problème, c'est que l'antinucléarisme japonais est complètement pourri par une certaine vision pacifiste de la contestation et de la lutte contre le nucléaire. C'est dû en partie à l'histoire des mouvements d'opposition japonais qui a été très sanglante dans les années 60, comme vous le savez, avec des groupes d'extrême gauche qui se sont entretués, et bien sûr leurs facéties ont été largement médiatisées et utilisées par le pouvoir pour montrer que toute contestation finalement ne pouvait aboutir qu'à ça, c'est-à-dire au massacre. Donc il y a profondément ancré, là, je ne dis pas que c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose qui est en partie fabriqué, qui renvoie en partie à une réalité, mais qui pourrait se modifier, mais en tout cas c'est comme ça pour l'instant. Il y a une identité entre, dans l'esprit des gens au Japon, entre toute forme de contestation et les mouvements d'extrême gauche qui ont fini dans les bains de sang dans les années 60. Et ça, ça n'aide pas beaucoup à rendre efficace le peu de manifestants anti-nucléaires qui vont dans la rue. premières grandes manifestations qui ont atteint 25 puis une centaine de mille de personnes après les événements, donc entre avril et juillet 2011, sont à l'initiative de ces mouvements autonomes et n'étaient pas à l'origine des mouvements justement plus réformistes ou plus citoyennistes. Toutefois, ils ont été très vite rattrapés. Très vite, en fait, les antinucléaires classiques, ceux qui sont issus d'Hiroshima, en fait, et de la lutte contre, par rapport à Hiroshima, etc. Et les syndicats aussi, un certain nombre de syndicats, ont pris le wagon, ont pris les choses en main, en fait. Et donc, on est passé en 6 mois de temps, entre avril et septembre, je dirais, 2011, on est passé de mouvements de manifestations qui étaient très ancrés sur une lutte en termes d'autonomie, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, les Iki, à quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus institutionnalisé, certains diront récupéré, mais en fait, à quelque chose donc qui relève plus d'une contestation organisée et attendue, et finalement beaucoup plus rassurante pour les pouvoirs publics. Il y a eu un tournant, hein, techniquement parlant, lors de la manifestation de juillet, si mes souvenirs sont bons, qui devait être peut-être la 5e ou 4e grande manifestation. Là, ça commençait à monter en ampleur. Des gens ont commencé à s'agglutiner, en fait, sur un endroit, sur une place, en fait, sur un espace assez gigantesque. Oui, parce que normalement, les manifestations japonaises, vous avez peut-être déjà vu, mais on est à la queue leu-leu, par rang de 2 ou 4, et avec des policiers qui vous font circuler avec des... Non, mais c'est... Et puis on s'arrête au feu rouge, et puis bon, enfin... Or en fait, à un moment donné, en juillet, la manifestation s'est configurée d'une manière telle que techniquement, elle rappelait une configuration de manifestation qui s'est opérée dans les années 68, et qui a donné lieu à des affrontements terribles, où il y a eu des centaines de morts, etc. À partir de ce moment-là, où il y a eu cette prise de conscience, la manifestation de juillet en question a été complètement jugulée, et à partir de là, toutes les autres manifestations ont monté en ampleur d'ailleurs, mais elles ont été beaucoup mieux régulées et elles ont été beaucoup mieux canalisées. Passé ça. C'est-à-dire qu'en fait, les manifestations ont été spontanées et elles ont très vite perdu leur spontanéité à partir du moment où leur dangerosité a été évaluée par les pouvoirs publics. Le système japonais est un système politique quand même assez... Enfin, le système coercitif est très... quand même assez puissant.
De la centrale de Fukushima Daiichi se déverse jusqu'au fond de l'océan, imprègne la terre et s'insinue dans le corps des animaux et des hommes. Les morts retrouvés dans la zone évacuée sont à ce point irradiés qu'ils ne pourront être rendus à leur famille car ils contamineraient les vivants. Voici revenu les temps des sanctuaires de l'abîme, pour reprendre l'expression du poète Hölderlin, où nul ne veillera les défunts sous peine de succomber. Ce n'est plus seulement la mort qu'il faudra redouter, mais chacun des cadavres qu'elle aura touché de son doigt empoisonné.
Immaculate. You got the vision of the decision.